Que l'on soit plutôt de type chat ou de type chien, ouf, ouf, on a tendance à croire que notre animal est le plus intelligent, n'est-ce pas? Pourtant, la science n'est pas si catégorique dans le cas du chien. Parce que là, il y a un chercheur anglais qui a fait une espèce de révision de tout ce qui a été écrit sur l'intelligence des chiens et qui conclut qu'il n'y a pas d'évidence scientifique à l'effet que les chiens sont plus intelligents que les chats, notamment. Et je dois vous dire, parce que, bon, vous êtes un public très averti, mais au cas où vous ne le seriez pas, les chiens ont en moyenne 530 millions de neurones dans le cortex cérébral, alors que les chats en ont environ 250 millions, deux fois moins. On pourrait penser que comme les chiens ont en moyenne deux fois plus de neurones dans le cortex que les chats, les chiens, ouf, ouf, sont plus intelligents que les chats, miaou, miaou. Sauf que c'est pas si clair que ça. Voilà, c'est ça l'idée. Et je vais vous demander dans un instant de participer un peu de nous livrer votre vos conclusions empiriques, surtout pour ceux qui ont eu à la fois un chien et un chat. Est-ce que votre chien, ouf ouf, était, de façon générale, plus intelligent que votre chat, miaou miaou? Mais d'abord, le docteur Raymond Place, vétérinaire, à qui on fait appel une fois de temps en temps pour son expertise pratique. Bonjour, docteur.
Salut, Bernard.
Alors, moi, je vais vous dire, j'avais un chat qui s'appelait Léo. Léo, là, il fonctionnait par mimétisme. Il était exceptionnel. Il s'installait sur le sofa par moment, là, sur le divan. On écoutait, mettons, une partie de hockey. Et puis là, il se couchait debout. Puis il nous imitait, là, comme s'il était assis, avec les quatre pattes en avant. C'était, écoute, un chat brillant. Et moi, j'oserais dire que c'est l'animal domestique le plus intelligent que j'ai eu, moi. Vous, votre expérience pratique, clinique, vous amène à quelle conclusion?
Je savais que tu me posais cette question. Étant donné que je fais des chats et des chiens, ça me mente le
pas peinture. Mais je fais par exprès.
Écoute, ma perception est que ça dépend beaucoup comment on mesure l'intelligence, puis notre perception d'intelligence. Soit prendre quelqu'un qui est analytique, qui va penser qu'un impulsif, c'est un pacanard qui pense pas. Et le pacanard, il va trouver que l'analytique n'est pas intelligent parce qu'il prend une terme avant de prendre une décision. Les deux personnes sont probablement intelligentes, c'est juste différent. Le chat est beaucoup moins interactif avec l'humain que le chien va l'être. Et souvent, les gens vont arriver avec leur chat et disent « Moi, mon chat, il est tellement intelligent, il se comporte comme un chien. » Le nombre de fois où j'entends cette phrase-là, là, je passe pas une semaine sans l'entendre. Donc, même les propriétaires de chats qui pensent que leur chat est plus intelligent qu'un chien vont définir l'intelligence par l'interaction avec l'humain. Alors que c'est deux réactions complètement différentes. Mettons, tu regardes une course de voiture à la télé. Mm-hmm. Le chat regarde la télé. Puis là, éventuellement, il dit, ils vont où, ces efforts-là? Puis là, il regarde en arrière de la télé, ça va où vont les voitures, il dit, ils vont nulle part. Le chien va rarement faire ça. C'est pas quelque chose que le chien va avoir. Il y en a, là, mais c'est pas quelque chose que le chien va avoir tendance à faire maintenant.
Donc, il y a comme. Peut-être moins de curiosité du côté du chien que du côté du chat.
Le chien, il y a une curiosité, c'est juste qu'elle est littéralement concentrée sur nous. C'est que le chien vit pour l'humain. Maintenant, c'est une source d'intelligence, c'est certainement une source d'adaptabilité. Il n'y a pratiquement plus de loups sur la planète. C'est une espèce en voie d'extinction, alors qu'il y a des millions de chiens sur la planète. Fait que les loups qui ont décidé de devenir des chiens, là, parce que c'est un peu ça qui s'est passé, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, bien, finalement, ils ont fait un bon choix. Donc, en termes d'adaptabilité...
Ben là, tu viens de m'apprendre quelque chose, Raymond Place, là. Tu viens de m'apprendre que les chiens sont pas des dérivés, mais à l'origine, c'était des loups?
Oui. Ah ouais, bon? Le gros de la génétique, il n'y a pas beaucoup de différence là, entre un loup et un chien. Dans le fond, un chien, c'est un loup.
Ah ben, je ne savais pas. Continue.
C'est un loup domestiqué. Fait que tu as l'homme préhistorique là, qui se promène, puis qui est un dominant, puis finalement, les loups sont aux alentours, mais tu comprends qu'on a une hiérarchie très similaire. Là.
D'accord.
Il y a un alpha. Nous, on a un premier ministre, eux autres, ils ont un alpha. Bon, c'est comme ça fonctionne, c'est pyramidal. Puis finalement, on compétitionne pour la même nourriture, puis là, ils sont dans nos jambes, fait qu'à un moment donné, on arrive sur les mêmes points, puis étant donné qu'on est ensemble, ceux qui sont agressifs, on les tue, ceux qui sont moins agressifs, ils ils vivent en retrait, puis finalement, ils s'incorporent graduellement
à l'humanité. Ils deviennent domestiqués.
Ils deviennent des chiens de chasse, parce qu'ils commencent à aller chasser avec nous. Puis ils deviennent éventuellement des chiens de garde, parce qu'il y en a qui restent en arrière, puis que finalement, ils aident les mères avec les bébés dans les cavernes. Là, ce qu'on parle qu'à l'époque, c'est comme ça fonctionnait. Fait que là, puis graduellement, ben, on a fait tout. Là, on a commencé à trouver qu'un chien, ben, qui avait les oreilles tombantes, c'était cute. Fait qu'on a reproduit la fille avec son père pour essayer d'en avoir plus. C'est de même qu'on a créé les races. Puis c'est pour ça aussi que l'animal s'est éloigné d'un point de vue visuel de ce que le loup peut ressembler.
Eh bien,
Mais on comprend que ces chiens-là, ils ont fait quoi? C'est qu'ils se sont adaptés en essayant de nous faire plaisir pour survivre. Bien, c'est sûr que quand on regarde l'interaction du chien par rapport à l'humain, qu'est-ce qui va nous donner l'impression? Bien, c'est cette impression-là. Il a un but dans la vie. Il me rend heureux parce que c'est ce qui a fait qu'il est passé à la place d'insection à en avoir des millions sur la planète.
OK, c'est bon ça. Ça, c'est très bon ce que vous venez de me dire là. Mais là, je trouve que vous parlez beaucoup du chien puis vous ne parlez pas beaucoup du chat. J'ai l'impression que Raymond Place, vétérinaire, un petit faible, il est en train de répondre à ma question sans y répondre parce qu'il ne veut pas bousiller une partie de sa pratique qui est consacrée à soigner des chats. Mais j'ai l'impression que Raymond Place est un petit faible pour les chiens. J'ai l'impression qu'il est un petit faible pour les chiens.
En fait, c'est que quand Raymond Place a commencé à pratiquer puis qu'il arrivait un chat dans sa salle de consultation, les deux bras, ils tombaient à terre parce qu'on appelle ça le syndrome du chat qui file pas. Le client arrive, il dit « mon chat va pas ». Mais ça s'arrête là. Fait que là, le client sait, en regardant son animal, qu'il est pas comme d'habitude. Le problème, c'est qu'il sait pas que ce qu'il y a là, toi, normalement, tu fonctionnes parce que t'as ouvert des livres, c'est marqué que s'il fait ça, 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 il y a ça. Mais là, t'as zéro. Fait que là, faut que tu fasses un examen clinique, puis le chat te montre rien. Il est avare de ses symptômes. Le chat est un animal que, en général, on adore parce qu'on le comprend pas. Et le chien est un animal qu'on adore parce qu'il est facile à comprendre. Il est comme nous autres. Fait que c'est pas de savoir j'aime-tu mieux un ou j'aime-tu mieux l'autre. C'est que c'est la curiosité. Maintenant, quand je fais des consultations avec un chat, la subtilité de ce que le chat me présente, je suis capable de l'avoir, mais c'est de la subtilité. Il veut pas me le montrer. Il veut pas avoir l'air malade. Puis il a besoin de moi, comme moi j'ai besoin d'un ondé d'en face. Le chat est capable de vivre dehors cet hiver. Il va pas mourir. Là, si tu mets un chihuahua dehors, ben, ça va faire un popsicle, là. Il a besoin de l'humain, le chien. Le chat, pas vraiment.
Fait que le chat est indépendant, là, ça, c'est vrai, ça.
Il est indépendant parce qu'il a le droit. Le chien n'est pas indépendant parce qu'il n'a pas le droit. C'est de l'adaptabilité.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas, là, quand vous dites qu'il a le droit, il n'a pas le droit, là.
Ben, le chat, tu dis, gars, si ça ne fait pas ton bonheur, c'est ça pareil, là. Moi, je vais aller dehors, mais aller m'en chasser une souris. Le chien, là, il a besoin de nous autres pour vivre, puis évidemment, ça fait des millions d'années qu'il est avec nous autres, là. Des millions, j'exagère, là.
Vous dites que le chien, laissé à lui-même, le chien est plus vulnérable que le chat. Laissé à lui-même.
Absolument.
Ah oui.
Absolument. Admettons qu'on prendrait le husky ou le husky malamute, là, peut-être que ça serait moins vrai, malgré que je pense pas qu'il pourrait être dans nature bien longtemps sans que ça allume des lumières, là, parce que évidemment, il va aller fouiller dans les vidanges, puis il va devenir un prédateur. Les gens vont tolérer ça un peu moins, mais probablement qu'il pourrait s'en sortir juste l'hiver. Pensons à l'hiver. Combien de races de chiens sont capables de passer un hiver? Alors que la majorité des chiens sont capables.
C'est intéressant. Vous me faites réaliser plein de choses. Maxime, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je dirais les chats, c'est pas parce qu'on les adore parce qu'ils sont... Comment qu'il disait ça?
Parce qu'on les comprend pas.
Parce qu'on les comprend pas, je dirais plutôt parce qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. tu donnes sa bouffe, son eau, ben ça. Moi, j'ai trouvé mon défunt chien cette année qui est mort. Il y avait une intelligence que j'ai resté surpris parce que je l'ai entraîné pendant un an et demi de temps, moi, à le promener, puis aux rues, on arrêtait. Puis, quand je disais « OK, Spike », il marchait. Ensuite de ça, je l'ai laissé marcher tout seul pendant le reste de sa vie. Puis, c'est rendu qu'il regardait la lumière. Quand c'était rouge, il s'assoyait. Puis, quand elle arrivait à la position verte, il se levait et se préparait à traverser. Je disais même plus rien. Il a comme compris ça tout seul. Tu sais, j'ai jamais montré ça. Là.
D'accord.
Alors, j'ai trouvé...
Ça, c'est un point intéressant. C'est un point très intéressant parce que, dans le fond, on détermine l'intelligence. Entre autres, on dit que les singes sont ultra-intelligents parce qu'ils sont capables d'utiliser un outil pour travailler. Admettons, aller chercher des termites. D'ailleurs, c'est une des exemples qui a été utilisé dans l'article en question, c'est qu'ils vont prendre un morceau de bois pour aller chercher des termites ou une roche pour briser des mollusques. Donc, l'utilisation de quelque chose interposé. Puis là, on dit que les chiens ne sont pas en mesure de faire ça. Ce que monsieur décrit, ce serait que le chien serait en mesure d'utiliser un outil pour savoir s'il peut, même si l'outil est visuel, il pourrait utiliser l'outil pour savoir s'il peut traverser ou pas. En fait, c'est pas s'il peut, c'est s'il a le droit ou pas, parce que dans le fond, il sait pas là, qu'il a le droit ou qu'il n'a pas le droit. Là.
Mais il voit les couleurs? Le chien voit les couleurs?
Non, les chiens voient les couleurs. Les chiens voient quand même certaines couleurs. Ils les voient certainement pas comme nous autres. Là. Ils n'ont pas de bâtonnets dans la rétine, mais ils sont quand même... Il y a des études qui montrent que les chiens verraient certaines couleurs. Mais évidemment, les lumières sont rondes, carrées, triangles. Ça, le chien voit ça. Puis il ne faut pas oublier non plus que ça devient très près de ce qu'il fait de toute façon sur une base journalière, en fait, sur une base à la seconde. C'est que les chiens nous regardent la figure, tout comme les chats d'ailleurs, et sont capables d'interpréter des centaines de différentes expressions de notre figure.
Ah oui, c'est prouvé,
ça? Les
gens,
des fois, ils vont appeler. Bien, les gens appellent, puis ils vont dire ben là, j'avais rendez-vous, mais je trouve plus mon chat. Ben, c'est parce qu'on avait à face, je t'avais t'en faire une plate. On s'en va dans la cage, tu t'en vas chez le docteur. Tu comprends que le chat, il dit, ça n'aime pas ça, ce face-là, puis il s'en va se cacher.
Je viens de comprendre, moi, pourquoi on avait de la misère à embarquer les vaches dans le camion qui s'en allait les porter à la boucherie. Il décodait notre non-verbal?
Ben, probablement.
Quand j'étais élevé sur une terre, là. Quand on envoyait une vache à un moment donné, là, à la boucherie, là, c'était hallucinant, là. C'est comme s'il y avait un sixième sens qui disait, faut pas j'embarque là-dedans, moi, là, faut pas j'embarque là-dedans, là.
Ben, c'est parce qu'on leur dit. Sans leur dire, on leur dit.
Je dois prendre un dernier appel. Maxime, merci pour l'appel. Serge, vite, vite, vite.
Oui, oui, allô?
On vous écoute.
Oui, parfait. Ben, moi, j'ai eu plusieurs chiens et plusieurs chats depuis plusieurs années, dont des chats de race. Et puis, ceux qui n'étaient pas purs, entre autres, là, c'est pas compliqué. Qui dit, on ne veut pas l'envoyer dehors. Naturellement, il essaie. Première chose qu'on s'est aperçu, c'est que dès qu'on ouvre la porte, il était assis à côté. Première chose qu'il a faite, il a monté sur le comptoir, il a ouvert la porte. Salut, bonjour, je suis sorti. Et j'ai vu ça à plusieurs reprises.
Ça, c'est un chat, ça?
Le chat, ben
oui. Oui, oui, oui. Ah ben oui, il fait
le
ça
chat
lui-même.
Est beaucoup plus indépendant.
Oui.
OK, un peu comme nous autres, on était indépendants.
Oui,
Et ils doivent réfléchir pour faire leur choses. Ils sont là, puis ils apprennent sans qu'on leur enseigne.
En fait, il apprend, c'est que le chat, dans ce cas-là, on parle de pur versus moins pur. C'est sûr que plus le chat, dans le fond, plus le code génétique de l'animal est laissé finalement à mère nature versus au contrôle de l'humain, c'est sûr que l'indépendance de l'animal augmente si l'indépendance est reliée à sa capacité de fonctionner. Parce que nous autres, ben, la sélection naturelle, on s'y soustrait. Alors que là, on permet à l'animal, dans le fond, de se reproduire normalement, puis s'il est fort, il survit, puis s'il est faible, il meurt. Fait que c'est sûr qu'il est encore beaucoup plus capable d'aller dehors. Non seulement il est capable, mais il veut y aller, puis il veut pas être restreint. Fait que cet exemple-là, c'est sûr que c'est ce que ça nous donne.
Raymond, c'est bien fascinant, là, mais il faut vraiment que j'arrête, sinon il ne me restera pas de temps. Mais c'était très... Merci Serge pour l'appel, c'était très intéressant. Et au plaisir de se reparler, Dr. Raymond Place, vétérinaire. Non, t'as très bien fait ça, Raymond, je te félicite. Je t'ai posé quelques cols et t'as bien navigué. À la prochaine.
OK, bye, bye.
Faut s'arrêter, hein. Moi, j'aurais aimé ça continuer, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut s'arrêter parce qu'il faut se garder du temps pour parler de l'international. Hein? Puis c'est ça qui s'en vient.